Depuis hier, nous voyons comment la création permet de transformer ce monde, comment elle est source d'innovation, comment elle permet à des jeunes, pour reprendre le bel exposé qu'on a entendu sur le rap africain, elle permet à des jeunes de s'emparer du monde et de devenir actifs. Et en fait, on voit peu à peu comment s'opère cette métamorphose dont nous parlait également Edgar Morin. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur cette réflexion en réfléchissant sur la création comme façon de redynamiser le monde. Et nous allons commencer avec un exposé d'Antoine Compagnon, la littérature accélérateur d'innovation. Comment la littérature change-t-elle notre manière de voir le monde? Alors Antoine Compagnon est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine, et il a notamment publié sur Montaigne, Baudelaire et Proust. Donc je vous laisse la parole pour 25 minutes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bon, ce titre, la littérature accélérateur d'innovation, c'est évidemment un peu provocant, un peu iconoclaste, et je ne suis pas sûr que le terme d'innovation soit approprié aux côtés de la littérature. Hein, c'est un peu, comme disait Lautréamont, la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Et peut-être que le terme accélérateur est encore plus inadéquat que celui d'innovation pour parler de la littérature. C'est un terme qui vient de l'entreprise, c'est un terme qui désigne cette destruction créatrice qui est très au goût du jour et qui avait été introduite il y a longtemps par Schumpeter, mais qui aujourd'hui signifie à peu près que si tu n'innoves pas, tu meurs. Et on a beaucoup d'exemples de ces morts de firmes ou d'entreprises ou de marques qui sont liées au défaut d'innovation dans les produits, dans la fabrication, dans la distribution, qu'il s'agisse de BlackBerry qui disparaît, de Nokia qui disparaît, de Yahoo qui disparaît. Et on parle d'obsolescence programmée dans cette condamnation à innover à un rythme accéléré, de plus en plus accéléré depuis l'entrée dans le monde numérique. Et bien entendu, cette notion de destruction créatrice, d'innovation indispensable, inexorable, est liée à des phénomènes plus anciens qui remontent à la modernité, à la Révolution française, à la Révolution industrielle et à l'apparition de ce culte ou de cet impératif catégorique du nouveau comme définition de l'activité humaine à peu près dans tous les domaines, de l'économie à la politique. Et on imagine mal une campagne électorale dont le programme serait de ne rien changer. On connaît la fortune du mot de réforme dans la politique et les campagnes, même si certains disent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On a donc un mot d'ordre de nouveauté qui affecte les arts et métiers et aussi les beaux-arts. Mais je pense qu'il faut se rappeler que ce mot « arts et métiers » et « beaux-arts » est partagé. Beaux-arts, belles lettres, entraînés dans ce mouvement. Et on ne peut pas oublier que pendant très très longtemps, dans les beaux-arts et dans les belles lettres, la règle n'était pas l'innovation, mais l'imitation. L'imitation, par exemple, dans la querelle des anciens et des modernes, et puis le couple de l'imitation et de l'originalité. Mais je pense qu'il faut faire une distinction indispensable entre originalité et innovation, qui ne sont pas équivalent. Hein. La notion d'originalité, elle peut très bien s'accompagner de celle d'imitation, elle fait couple avec l'imitation, et on peut l'assimiler à une certaine inventivité, mais non nécessairement à l'innovation au sens fort, à l'invention au sens fort. Le sociologue Guillaume de Tarde, est l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'invention considérée comme moteur de l'évolution sociale hein, » au début du siècle. Et cette invention, telle qu'il la conçoit, cette invention, cette innovation, elle n'est jamais que une nouvelle combinaison, une combinaison originale d'éléments qui sont déjà disponibles. C'est une combinatoire. L'invention est de l'ordre de la combinatoire originale. Et le génie, pour lui, c'est la combinaison originale d'éléments vieux comme le monde, hein, début du XXe siècle. Quand on pense, hier et aujourd'hui, que je manque au Collège de France, nous avons un colloque qui porte sur l'histoire des idées, où je retournerai tout à l'heure. Et hier, nous parlions du grand historien des idées américain du milieu du XXe siècle, Lovejoy, qui considérait qu'il y avait des idées unités, des idées élémentaires, unit ideas, et que ces unit ideas, elles étaient combinées et recombinées toujours pour constituer l'invention au sens de l'imitation originale. Et bien sûr, l'invention comme imitation originale pose le problème de ce qui est l'émergence du véritablement nouveau. Comment combiner, dans une histoire des idées ou des formes, l'inventivité dans la combinaison d'éléments et le moment où, peut-être, cette combinaison d'éléments n'est plus possible ou n'est plus acceptable. Donc il y a, je crois, une grande distinction à faire ici entre originalité et innovation ou invention. Et réfléchir à ce culte, à cette superstition du « make it new » et du moment où il est apparu. Valérie, souvent il faut retourner vers les textes de Valérie de ce milieu du XXe siècle, disait, soulevant une des contradictions de cette innovation, « le nouveau, qui est cependant le périssable par essence, est pour nous une qualité si éminente que son absence nous corrompt toutes les autres et que sa présence les remplace. Hein ? Sans cet élément de nouveau, eh bien, aucune autre valeur n'est concevable. Sans le nouveau, tout le reste est discrédité. » Il poursuivait, « à peine de nullité, de mépris et d'ennui, nous nous contraignons d'être toujours plus avancés dans les arts, plus avancés dans les arts, dans les mœurs, dans la politique et dans les idées, et nous sommes forcés à ne plus priser que l'étonnement et l'effet instantané de choc. » Étonnement, choc, ce sont clairement des mots baudelairiens. Ils viennent de Baudelaire, et chez Baudelaire, ils viennent d'Edgar Poe, hein, qui associait la beauté wonder, to wonder, wonderment. Donc, et le choc, évidemment, c'est Baudelaire, qui est l'un des premiers penseurs de la beauté comme choc de la vie moderne, hein, de la ville, du monde moderne. Donc le nouveau est bien associé là à une exigence sans laquelle il n'y a plus de valeur. Mais encore une fois, je crois qu'il est indispensable de distinguer le nouveau temporaire, le nouveau dont Baudelaire parle aussi, qui est lié à un phénomène de mode, cette mode qui apparaît avec la modernité, l'idée que de saison en saison, on ne peut plus s'habiller comme on s'habillait l'hiver dernier, ce qui est un phénomène tout à fait nouveau au milieu du XIXe siècle, ou peut-être un peu plus tôt, peut-être que ça apparaît à la toute fin du XVIIIe siècle, en France, avec le directoire, avec la liberté qui suit la terreur, et l'idée qu'il faut être... qu'il y a une sorte de surenchère de couturière à couturière au directoire pour être plus nouveau. Donc il y a cette nouveauté qui est cette nouveauté de l'éphémère. Et puis, il y a probablement une autre nouveauté qui est beaucoup plus durable, qui est de l'ordre de l'invention qui fait date et qui est véritablement une instauration, hein, qui ensuite, pendant grande difficulté à coupler la tension entre ces deux types de nouveautés, et c'est pourquoi... si je reviens à cette histoire des idées dont nous parlions hier au collège, grande tension et conflit toujours entre ce qu'on appelle les continuistes et les penseurs de la rupture, hein, ceux qui pensent qu'il y a une sorte de, oui, de récurrence, de permanence d'idées atomiques toujours recombinées, et ceux qui sont des penseurs de la discontinuité, hein, pensons à Michel Foucault, hein, avec ses notions d'épistémé, hein, qui sont de l'ordre de l'émergence d'une radicalité nouvelle, enfin d'une nouveauté radicale, et en même temps, Michel Foucault n'a jamais souhaité penser le passage d'une épistémé à l'autre, d'un socle de savoir et de connaissance à un autre socle de savoir et de connaissance. On peut penser aussi à un penseur dont on parle plutôt beaucoup, qui a eu une sorte de renouvellement de popularité ces derniers temps, qui est Simondon, le philosophe Simondon, qui est un peu philosophe du progrès technique, et qui parle de concrétisation. Il emploie la concrétisation au sens où, dans une invention, au sens d'une instauration de véritables nouveaux, il y a un certain nombre de potentialités, donc de nouveautés en puissance qui se développeront à partir de là. Et l'exemple de Simondon, c'est le moteur. C'est le moteur. Le moteur à combustion interne comme véritable instauration de nouveautés par opposition au cycle annuel et des modèles de voitures. Et on peut penser, en effet, qu'à partir de ce moteur à explosion, il y a un certain nombre de potentialités qui sont peu à peu concrétisées. On passe du modèle du moteur à explosion au moteur diesel, au moteur hybride, au moteur électrique, voilà, des innovations importantes, sans commune mesure avec le passage du modèle de la Ford Galaxy 1962 à la Ford Galaxy 1963, où on a changé quelques ailerons pour remettre sur le marché à peu près le même modèle. Alors, dans les deux cas, l'obsolescence est le résultat de l'innovation, mais il me semble qu'il y a... Alors là aussi, c'est ce qu'on trouve chez un certain nombre de littéraires, un grand danger à appliquer ce modèle depuis les arts et métiers aux beaux-arts et aux belles-lettres. Hein. Et on trouve ça chez Baudelaire, hein. Pensons à la volonté d'extraire de l'éphémère. Hein. Baudelaire appelle la modernité elle-même, extraire de cet éphémère du nouveau, de la quotidienneté du nouveau, ce qui est, comme il dit, digne de l'Antiquité, hein, digne d'une certaine durée. Hein. Beaucoup de ces penseurs de la modernité se sont heurtés à cette difficulté. Pensons à Proust, que j'aime bien, hein, même scepticisme à l'égard de la doctrine de l'innovation et du progrès dans les arts, qui en quelque sorte rendrait l'art du passé mort. Hein. Hein, ce qui est du passé est mort. Et bon, il y a une sorte d'apologie, d'apologue, fable à ce sujet dans La recherche du temps perdu de Proust. Donc c'est le personnage de la jeune Madame de Cambremer qui a le snobisme du nouveau. Donc c'est une snob du nouveau et elle est en conflit avec sa belle-mère, la vieille Madame de Cambremer, qui a été une élève d'une élève de Chopin. Donc c'est une adulatrice de Chopin. Et la jeune Madame de Cambremer ne comprend pas comment on peut encore écouter Chopin après Wagner. Hein? Chopin est obsolète, caduque, n'a plus de valeur après Wagner. Et alors le narrateur de La recherche du temps perdu, dans cette conversation, elle lui tape sur les nerfs avec cette manie du nouveau. Et comme il est un peu pervers, il lui dit « Ah oui, mais... Debussy aime beaucoup Chopin. » Alors, elle est évidemment troublée, gênée, pas contente que Debussy aime Chopin. Et au contraire, la vieille Madame de Cambremer est ravie d'entendre que Chopin est en quelque sorte ressuscité par Debussy. Et le narrateur, comme il a vu que ça l'a piqué bien, il poursuit et la conversation porte sur... sur Poussin, et elle a le même raisonnement à propos de Poussin, et Poussin, comment peut-on encore regarder Poussin après l'impressionnisme? Et le narrateur lui dit, avec la même perversité, « Ah oui, mais Degas aime beaucoup Poussin. » Et alors elle cède, elle abandonne, elle dit « Ah, ben, je retournerai voir les Poussins du Louvre. » Et on comprend que Poussin redeviendra la mode, comme Chopin à travers ce tour de passe-passe. Mais il est patent que l'on trouve chez les plus grands innovateurs cette méfiance à l'égard de la doctrine du progrès appliquée aux beaux-arts et aux belles-lettres, l'idée que les œuvres puissent mourir et ne plus avoir de valeur en étant remplacées comme les objets techniques par de nouveaux objets techniques. Alors bien sûr, tout cela est largement accéléré dans le monde numérique où l'obsolescence va beaucoup plus vite. Lorsque j'ai commencé à travailler dans ce métier, j'ai eu une machine à écrire électrique. En fait, je raconte quelque part, c'est la machine à écrire que Roland Barthes m'avait donnée parce qu'il n'arrivait pas à écrire avec cette machine Olivetti. Quand il appuyait sur une touche, ça démarrait comme une mitraillette. Donc il n'avait jamais réussi à maîtriser cette machine à écrire électrique. Il s'en est débarrassé en me la donnant. J'étais étonné d'ailleurs de cette... difficulté qu'il avait parce qu'il était un pianiste amateur, mais il devait avoir un toucher délicat et pourtant il ne maîtrisait pas son Olivetti. En tout cas, avec cette Olivetti, lui, il a écrit toute sa vie avec une machine à écrire mécanique. Moi, j'ai écrit pendant 10 ans avec cette Olivetti. J'ai dû écrire 3-4 livres. Et puis ensuite, je suis passé à l'ordinateur et depuis, je crois que depuis 30 ans, j'ai changé d'ordinateur au moins une fois tous les 2 ans. Question, bien sûr, qu'on peut se poser, est-ce qu'on écrit mieux avec un ordinateur qu'avec une machine à écrire électrique, une machine à écrire mécanique ou un stylo? Je me souviens que mes premiers livres, chaque fois que je faisais un livre, j'achetais un nouveau stylo. Drôle de chose, hein, mort complètement, tout ça. Vous voyez qu'au début du numérique, je me souviens d'un éditeur que j'avais qui disait qu'il reconnaissait les livres faits au traitement de texte. Les manuscrits qu'on lui envoyait au traitement de texte, il les reniflait tout de suite parce que ces manuscrits étaient informes. Avec le traitement de texte, on peut toujours gonfler, faire des excroissances un peu partout dans un texte, et le texte devient en quelque sorte monstrueux. Bon, je lui répondais, mais avant le traitement de texte, il y avait déjà des manuscrits monstrueux. Et si je pense aux manuscrits de Proust ou aux manuscrits de Montaigne, qui sont faits d'excroissance, Montaigne et Proust avaient déjà inventé le traitement de texte. Montaigne et Proust avaient déjà inventé l'ordinateur. Quand on voit l'exemplaire de Bordeaux des essais de Montaigne, avec ses marginalia qui sont jusqu'à l'article de la mort, ou quand on voit les paperolles de Proust de la même façon, l'ordinateur était déjà là avant le traitement de texte. Alors, je pense qu'il faut donc être très très prudent sur ces rapports entre littérature et innovation. Je tombais récemment sur à propos du cours que je faisais au Collège de France cette année, sur des textes relatifs à l'invention de la plume de fer. L'invention de la plume de fer est au fond aussi importante que l'invention du traitement de texte. On a écrit à la plume d'oie jusqu'en 1830, et puis soudain, bon, c'est lié à la démocratisation, il n'y avait pas assez de plumes d'oie, ça faisait longtemps qu'on cherchait comment écrire avec... Bon, en France, ça coûtait cher, la plume d'oie, on les importait de Russie, on ne produisait pas assez de plumes d'oie en France. Donc on cherchait depuis longtemps comment trouver un moyen plus économique. C'est lié à la démocratisation, à la scolarisation. Et l'invention de la plume de fer, la plume d'acier, c'est tout petit. C'est l'opercule, c'est le trou. Bon, je ne sais pas si vous, mais moi j'ai encore appris à l'école primaire à écrire avec une plume sergent-major. Vous vous souvenez du petit trou, hein ? C'est ce petit trou qui a été breveté en 1830, qui rend la plume à la fois durable et flexible. Et brevet de 1830, très vite ça s'est répandu ça vient d'Angleterre, mais ça s'est répandu très vite en France. Mais la plupart des écrivains ont continué à écrire à la plume d'oie. Victor Hugo n'est jamais passé à la plume de fer. Baudelaire n'est jamais passé à la plume de fer. Et Jules Janin plaisantait en 1830, il écrivait « La plume de fer, 1836 ». On trouverait les mêmes textes sur l'ordinateur ou la machine à écrire. « La plume de fer, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est le fléau des sociétés modernes. Enfin, je vous le dis, le monde ne mourra ni par la vapeur, ni par le gaz hydrogène, ni par les ballons, ni par les chartes constitutionnelles, ni par les chemins de fer. Le monde mourra par la plume de fer. » Je crois que nous avons pu entendre beaucoup, beaucoup de propos de même nature à propos des inventions successives, machine à écrire ou ordinateur. Et pourtant, la littérature a survécu, et je dirais sans grand progrès, sans grand progrès. Je crois que ce sont des activités dans lesquelles il y a, au fond, peu de gains de productivité. Nous sommes dans des activités, et c'est pourquoi il faut, quand on pense à l'innovation, à ces questions d'innovation, les considérer de manière très différente, nous sommes dans des activités où il y a peu de gains de productivité. Pensez à l'enseignement. En enseignement, il faut toujours autant de temps pour apprendre à quelqu'un à écrire et à compter. Et les classes électroniques, les classes numériques, n'ont pas améliorer la maîtrise de la règle de 3 par les jeunes Français qui ne la connaissent plus du tout. En ce sens, nos activités sont comme celles des coiffeurs. Nous sommes comme les coiffeurs. Si c'est plus vite fait, c'est moins bien fait. Et on ne peut pas couper à cela. Donc il y a un certain conservatisme. Alors, je vois qu'on fait signe. Je voudrais aborder alors deux autres points très rapidement. Premier point, la littérature innove-t-elle encore ? Je crois que c'est une question qu'on peut se poser. Lorsque j'avais 20 ans, en 1970, quand je suis arrivé à Paris, c'était encore le temps des avant-gardes. Cette notion avait une validité certaine. Était-ce la fin des avant-gardes ? C'était le moment de Tel Quel, notamment. Il y avait une croyance qui était maintenue. Bon, on pourrait évoquer les arts plastiques, on pourrait évoquer la musique, c'était le grand moment de Boulez et de l'IRCAM. Et il y avait partout cette foi dans ce qui pouvait ressembler à un progrès technique en littérature. Des notions qui, au fond, auraient pu être brevetées en littérature. On peut penser, il y a un livre qui a été publié récemment par Jean-Pierre Bertrand sur l'invention en littérature, et il s'intéresse à quelques inventions qui auraient mérité d'être brevetées. Le poème en prose, il y a un inventeur du poème en prose, c'est Baudelaire. Il y a un précurseur, Aloysius Bertrand, dans Gaspard de la Nuit, mais c'est Baudelaire l'inventeur, parce que c'est Baudelaire qui en a fait la théorie, la dédicace à Arsène Housset. Pour être un inventeur, il faut aussi théoriser la chose. Donc il y a un inventeur du poème en prose, et le poème en prose, au fond, il est breveté. Georges Blin, grand baudelairien, disait le poème en prose de Baudelaire, le Spleen de Paris, c'est un commencement absolu. Commencement absolu. On rejoint la notion d'émergence que je disais tout à l'heure, que j'ai énoncé tout à l'heure. Il y a des innovations quotidiennes ou annuelles ou saisonnières, et puis il y a des commencements absolus. Le poème en prose. Ensuite, il y a des inventions comme le vers libre. Le vers libre. Mallarmé, après Baudelaire, intitule un texte « Crise de vers ». Crise de vers. Il y a une crise dans le vers, et il en sort le vers libre après l'alexandrin, alors que toute la poésie a été jusque-là dictée par la prosodie de l'alexandrin. Oui, on peut dire que le vers libre, c'est brevetable. Et puis, ensuite, il y a l'écriture automatique. L'écriture automatique, là aussi, c'est dans le manifeste. Manifeste lié à l'innovation. Eh bien, Breton, dans le manifeste, identifie surréalisme et automatisme. Automatisme, c'est une invention. Et puis, je crois qu'il faut aussi, dans le roman, parler du stream of consciousness, le monologue intérieur. Le monologue intérieur, là aussi, il y a un précurseur, Desjardins, mais il y a un inventeur, c'est Joyce. Joyce est l'inventeur du... Voilà. Donc, il y a eu un moment de la littérature qui commence, en gros, avec Baudelaire, 1848, en gros, et qui va peut-être jusqu'à, en tout cas, ma jeunesse, où cette notion de progrès était tout à fait intégrée. À cet âge-là aussi, j'ai souvent entendu Rob Grier, qui était un très grand conférencier, qui faisait de très belles conférences, j'ai souvent entendu, il faisait toujours la même conférence, mais elle était toujours différente, et elle était toujours très bien. Et l'une de ses grandes thèses, c'était que lorsque le nouveau roman avait été inventé, puisque pour lui c'était une invention, au milieu des années 1950, on n'avait pas compris le nouveau roman, autrement dit, toute la critique et toute la presse n'avaient pas compris le nouveau roman parce qu'ils n'avaient pas encore intégré Proust. Autrement dit, il fallait passer par Balzac, Proust, pour comprendre Rob Grier. Il fallait aller là. Et il y avait donc, et c'est très intéressant, l'idée. Et puis alors ensuite, on passe de Rob Grier à Solers, qui s'est débarrassé de Rob Grier après avoir fait alliance avec lui. Et c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que cette innovation, que cette invention, elle suppose le dialogue avec l'histoire, avec la tradition. Si Rob Grier a conscience d'inventer ou d'innover, c'est dans un dialogue avec Proust et avec Balzac. Il n'y a pas d'invention sans ce jeu avec la tradition. Alors on peut se demander, oui, s'il y a encore de l'innovation dans la littérature, si la littérature innove encore. Et au fond, la question, c'est de savoir si les écrivains lisent encore, les écrivains, puisque, me semble-t-il, l'innovation, comme je viens de dire avec Rob Grier, elle est indispensable. Ce qui lui est indispensable, c'est ce jeu avec les autres. Et c'est une question qui me semble assez grave. Est-ce que Bon, est-ce que les gens lisent? Mais est-ce que les écrivains lisent? Et il y a des écrivains qui disent que nous ne sommes plus aujourd'hui dans le temps de l'invention. On écrit sans lire parce qu'il y a trop à lire, déjà. Et la notion d'invention ou d'innovation est tout à fait évacuée, et elle est par exemple tout à fait évacuée par des écrivains comme qu'on lit beaucoup, comme Houellebecq, qui dira que l'invention n'est nullement nécessaire, ou l'innovation, à la littérature. J'arrêterai là.
Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Je donne la parole sans plus tarder à Bruno Takels, qui est essayiste.